qui chuchote, la cocotte qui chuchote, qui chuchote, la cocotte qui chuchote.
La cocotte qui chuchote.
Une émission spéciale sur la deuxième édition du projet du même nom.
Mitonné par le parc naturel Jonal des Grands Causses, avec la complicité du chef Martin Souchet, dans quatre terres-lieux du territoire.
Saint-Maurice Navassel,
Mio,
Saint-Sévère du Moustier
et La Tour-sur-Sorgue.
Radio Larzac et Radio Lodève posent leur micro au cœur de tiers-lieux pour raconter celles et ceux qui les font vivre
depuis les casseroles.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Larzac et nous sommes en direct et hors les murs de notre studio pour une émission spéciale, vous l'avez entendu, à l'occasion de la quatrième et dernière soirée du projet La Cocotte qui chuchote, la deuxième édition de cette déclinaison de soirée repas dans les tiers-lieux du territoire. C'est un projet du parc naturel régional des Grands Causses avec le chef Martin Souchet. Et ce soir, on est donc au château de la Tour-sur-Sorgue qui nous accueille et qui accueille la soirée et le repas. Et je suis avec Nico à la technique. Merci d'être là. Merci pour l'accueil dans ce château. Et justement, dans ce plateau radio, nous allons explorer la notion d'accueil. C'est un aspect central de ce projet La Cocotte qui chuchote et aussi des tiers-lieux en général. Comment renforcer le lien social, offrir des espaces et des occasions de rencontre à un milieu rural ? Eh bien, nous en parlons ce soir avec plusieurs invités, avec Guillemette Sobi, coordinatrice du tiers-lieu du château de la Tour-sur-Sorgue. Bonjour Guillemette.
Bonjour.
Nous sommes aussi avec Marianne Cantacuzène, ébéniste et récemment installée à la Tour-sur-Sorgue après un stage au château. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Avec Audrey Puech-Broussou, coordinatrice du programme alimentaire de territoire au parc naturel régional des Grands Causses. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Nous sommes aussi avec Liane Jutet, boulangère à la Tour-sur-Sorgue et bénévole au tiers-lieu aussi. Bonjour.
Bonsoir.
Et avec Timothée, votre fils, également bénévole et participant aux animations du château. Bonjour Timothée.
Bonjour.
Et merci à toutes et tous d'être là. C'est parti. J'aimerais commencer avec toi, Guillemette, qui est donc coordinatrice du tiers-lieu installé dans ce château, qui nous accueille. Donc on va reparler du projet de la soirée de ce soir que vous avez préparé. Mais est-ce que pour commencer, tu pourrais présenter brièvement la genèse de ce projet de tiers-lieu ?
Alors, le tiers-lieu est dans un château médiéval qui existe depuis l'an 1000, qui a une très longue histoire. Il n'a jamais été abandonné, ce château, il a toujours été habité. Et donc, en fait, le tiers-lieu, c'est simplement perpétuer et continuer cette histoire. Parce que l'histoire du château, c'est aussi une histoire d'accueil tout au long des siècles, de différentes populations, de différentes familles. Et aujourd'hui, le château, c'est un tiers-lieu où se croisent de nombreuses activités. C'est un tiers-lieu associatif, parce que l'association a restauré le château depuis 1990. C'était en grande partie ruiné. Ils ont restauré les lieux, ça a donné des espaces qui ont été mis à disposition de la population, des habitants, des entrepreneurs, des artisans, des associations, des parents, des enfants, de toute tranche d'âge des habitants du territoire. Et du coup, ces habitants sont emparés du projet et proposent en fait dans les lieux de multiples activités. Donc on a une épicerie, on a un bar, on a les salles pour les associations qui proposent des activités de yoga par exemple ou d'art plastique. On a un relais petite enfance intercommunal, donc là des assistantes maternelles qui se regroupent. On a un espace de coworking, on a la visite du château, on a des gîtes Et on a une maison aussi dans le village pour accueillir des nouveaux arrivants ou des jeunes qui arrivent sur le territoire.
Dont on va parler aussi, effectivement. Et donc, ces projets, ces espaces que tu as nommés, c'est vraiment quelque chose qui a été pensé par les habitants habitantes une fois que vous vous êtes réunis autour de ce projet de tiers-lieu ?
Alors, le projet tiers-lieu est vraiment né suite au Covid pour relancer une dynamique sur le lieu, parce que post-Covid, tout s'était un peu évolué, un peu changé. Des nouvelles personnes sont arrivées sur le territoire. Et donc là, il y a un diagnostic qui a été fait avec un questionnaire, avec des réunions pour essayer de cerner un peu mieux les besoins des habitants et des différentes catégories d'habitants. Et ce qu'on a fait ressortir, c'était qui est essentiellement un besoin de lien, de communication, surtout post-Covid, mais de manière générale sur les territoires ruraux, entre les habitants, puisqu'on a de moins en moins de commerce, on n'avait plus de commerce avant que la boulangerie revienne, on n'avait pas l'accueil avec le bar et l'épicerie, donc des endroits où les gens se réunissent et tout simplement discutent, en fait, il n'y en avait plus. Donc c'était ce besoin-là, et après il y a d'autres besoins qui se déclinent, un besoin de culture, un besoin de bien manger, des besoins de se rencontrer, de lutter contre l'isolement. Essentiellement c'est lutter contre l'isolement en fait, ce qui est ressorti.
Et donc aujourd'hui, après quelques années, qu'est-ce qui fonctionne au château ? Qu'est-ce qui est ressorti de cette dynamique ?
Alors, ce qui fonctionne, c'est les moments d'échange et les moments de rencontre. Le point d'accueil fonctionne bien. On a vraiment du monde un peu tout le temps. Et on a les soirées du vendredi soir et le petit marché où là, vraiment, il y a du monde. Il y a une maraîchère et il y a la boulangerie qui sont ouvertes le vendredi soir. Et nous, en parallèle, on est ouvert. Donc, les gens viennent chercher et faire leurs courses. Et après, tout ce qui est projet culturel, ça marche vraiment bien parce que sur les territoires ruraux, on n'a pas forcément accès à la culture, ou alors il faut aller loin, il faut se déplacer. Donc par exemple, on a mis en place des ateliers de théâtre pour monter un spectacle autour d'un escape game géant. Donc ça vraiment, ça marche bien, et il y a des enfants ou même des adultes qui découvrent le théâtre par ce biais-là et découvrent des choses qu'ils ne pensaient pas que ça existait. Comme la semaine dernière, j'ai eu un jeune qui m'a dit « je ne savais pas que les artistes ça existait ». Donc c'est assez important de faire découvrir par le biais du tiers-lieu plein de choses auxquelles les habitants n'ont pas forcément accès.
Et donc j'aimerais m'adresser à vous, Liane et Timothée. Vous, pourquoi vous venez au château ? Qu'est-ce que vous faites ? Quelles animations vous aimez ?
Alors nous, on vient au château régulièrement. Pour discuter, pour boire un verre ou acheter des chips pour l'apéro, par exemple. On aime bien assister aux expositions, par exemple, ou voir des spectacles quand c'est proposé, ou des petits concerts. Il y a le festival Les Châtelaines qui réunit des personnes qui travaillent la laine, et c'est assez riche, c'est chouette pour faire les cadeaux de Noël et pour se faire des cadeaux à soi-même aussi. On est assez investi, et mon fils est beaucoup plus bénévole que moi parce que moi je travaille beaucoup, donc j'ai pas forcément autant de temps que je voudrais pour participer à cette vie du château.
Timothée, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce que tu, par exemple, qu'est-ce que tu fais en tant que bénévole au château ?
En tant que bénévole au château, je fais la caisse et je fais des ateliers qu'il y a chaque année et qui sont c'est bien.
Qu'est-ce qui te plaît ?
La dynamique et aussi les personnes et ce qu'on fait.
Ok, merci.
Je dirais que l'équipe du château est très inclusive, très chaleureuse, très bienveillante et soutenante. Et du coup, c'est cet échange-là qui est agréable, en fait. Surtout quand on arrive et qu'on ne connaît pas, qu'on connaît pas grand monde, quoi.
Et justement, c'est ça qui vous a donné envie de vous impliquer en tant que bénévole, tous les deux, ça vous, que ça fait que vous vous sentez accueillis aussi ?
Oui, tout à fait. Puis là, en fait, en reprenant le fournil aussi, c'est une dynamique entre le fournil et le château. Avant, il y avait l'ancien boulanger Thierry. Moi, j'ai repris, j'ai réussi à structurer un peu plus le fournil avec des salariés, ce qui fait qu'on fait aussi des événements en partenariat avec le château. Par exemple, on fait une fois par an la soirée sandwich ou la fête du fournil qui est un fournil pour partager où les gens ramènent leurs plats qu'ils veulent cuire et après on fait un repas partagé. Tout ça se fait voilà en partenariat avec le château parce qu'il y a l'équipement possible, les tables, les couverts, enfin les espaces quoi en fait.
Et justement puisque tu en as parlé, je voulais te demander aussi comment ça se passe depuis que tu as repris ce fournil. C'était en 2023, c'est ça?
Oui, ça doit être ça. Ça se passe bien, ça se passe même très bien. Ça, c'est vrai que c'est très valorisant et ça prend tout son sens en fait de tenir un fournil dans un milieu rural isolé où on sent qu'on a quand même il y a une importance sociale en fait du fournil pour les rencontres et en plus on fait du pain vraiment à l'ancienne avec un four à bois, c'est du pain au levain, donc c'est aussi un pain qui est bon, qui est nourrissant et qui est sain. Et du coup y a plein de personnes qui viennent de la vallée mais aussi d'ailleurs en fait le fournil voilà est assez connu et c'est vrai que entre la célébrité du château on va dire et la célébrité du fournil, ça crée un bon cocktail.
Et oui, justement, Guillemette le disait aussi que en milieu rural, souvent, quand on pense aux villages qui ont de moins en moins d'habitants, on pense aussi aux épiceries ou aux boulangeries qui se ferment. Et souvent, c'est un peu le premier lieu de lien et de rencontre. Toi, c'est quelque chose qui te tenait à cœur quand tu as décidé de reprendre ce fournil?
Oui. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est c'est l'esprit, en fait. L'aspect, alors peut-être spirituel, mais dans le sens où on fait un bon pain. Enfin, on fait vraiment quelque chose à manger qui est sain et c'est pas forcément évident de nos jours où il y a de plus en plus d'alimentation, où l'agro-industrie prend le pas sur l'artisanat aussi bien dans la nourriture que dans tous les produits en fait. Et après, j'aimais beaucoup le fait que ça soit un lieu où tout le monde se rencontre, hein, puisque en fait les clients ils viennent et après ils discutent et du coup c'est pour ça que le café, le bar le soir, le vendredi, c'est vraiment bien parce que ça permet de prolonger ça parce que le fournil est tout petit et on peut pas discuter à trop nombreux en fait dans le fournil et en fait on rencontre plein de personnes, c'est vraiment très agréable.
Et Marianne, j'aimerais m'adresser à toi. Donc, tu t'es installée récemment à la Tour sur Sorgue après un stage que tu as fait au château et une période de test, c'est ça ? Qu'est-ce qui t'a convaincue à vouloir déménager ici ?
C'est un petit peu étrange même pour moi, hein, mais quand je suis arrivée à la Tour sur Sorgue pour un stage qui n'était pas prévu dans ma vie, mais qui a eu lieu, voilà, par une série de hasards, de circonstances. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, oh là là, mais ouais, c'est là, je me sens bien là. Bon, j'étais dans un moment de tournant de ma vie, pour des raisons personnelles, je suis en retraite maintenant, j'ai 66 ans, et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas, j'y vais. Il se trouve que je connais bien le nord de l'Hérault, où j'ai longtemps passé du temps, où mon frère habite et tout ça, où il y avait la maison de mes grands-parents. Donc je me sens pas loin de revenir quelque part comme chez moi, alors que je ne suis pas du tout de chez moi. Je n'ai pas cette prétention de dire je suis chez moi ici, mais je me sens très bien accueillie. Vraiment, tout ce qui a été dit sur l'accueil, le lien social, toutes les activités qui vont contre l'isolement, je trouve que c'est très réussi parce que moi, j'ai passé toute ma vie professionnelle dans des grandes villes. Mais je suis même née à Paris, moi. Et j'ai vécu 30 ans à Paris et 35 ans à Amiens. Donc, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ici. Et bien, je trouve qu'à part les questions de mobilité qui me... Je le savais, mais c'est un peu désarçonnant, on va dire. Tout le reste, c'est que mieux. c'est que mieux, c'est formidable.
Et donc, Guillemette, tu disais tout à l'heure qu'il y a une maison que vous proposez pour les nouvelles arrivants qui peuvent aussi tester un petit peu le territoire. Comment ça se passe quand il y a une personne comme ça qui est intéressée à s'installer ici ?
Alors, du coup, c'est la maison qu'on appelle la maison d'Augusta, parce que c'est une vieille personne âgée, qui nous a légué cette maison. Et du coup, c'est une personne qui était très attachée au château et à l'association, qui est née dans le château, et elle avait à cœur de passer sa maison à l'association. Et nous, on s'est dit que pour perpétuer un peu son esprit et voilà sa présence... Eh bien, on pouvait ouvrir cette maison aux nouveaux arrivants du territoire. Donc, dans un premier temps, on l'a ouvert essentiellement aux jeunes qui arrivent sur les territoires, donc soit en stage, soit en service civique, soit en alternance. Parce qu'en fait, on a remarqué que les jeunes, quand ils arrivent ici, déjà dans notre association, ils se sont un peu désarçonnés. Parce que généralement, ils viennent de grandes villes. Donc déjà, il y a le pas à franchir. On arrive à la campagne et ça ne fonctionne pas du tout pareil. Les liens avec les personnes, la manière de fonctionner, ce n'est pas du tout pareil. Donc déjà, cet apprentissage-là qui était compliqué. Donc le fait déjà d'être dans une maison où ils arrivent et ils sont plusieurs, donc ils viennent de plusieurs structures, et le fait que ça soit raccroché au tiers-lieu, ça fait qu'ils ont déjà une porte d'entrée sur le territoire et on va dire... entre guillemets, l'apprentissage de ce territoire et la connaissance de ce territoire et connaître des personnes qui habitent sur ce territoire. Et après, c'est qu'il y avait une forte demande. Donc ici, des maisons disponibles, il n'y en a pas beaucoup. C'est difficile de se loger. C'est très compliqué donc, trouver une maison en location ou une maison à vendre. Et donc, on a des personnes qui arrivent par hasard ou suite à des stages ou comme Marianne ou différentes portes d'entrée. Et on s'est dit qu'on pouvait aussi leur ouvrir à eux pour s'essayer, entre parenthèses, au territoire, voir si le lieu leur convient, si la vie sur un territoire rural tel que le nôtre peut convenir. Et donc, on a ouvert cette maison et les chambres. Donc, il y a 4 chambres de cette maison aux personnes. Donc, ça donne des belles rencontres, soit entre les jeunes qui sont là, plus les nouveaux arrivants qui s'essaient au territoire, plus avec les habitants qui sont ici. Et ça fait croiser des personnes qui, autrement, ne se seraient jamais croisées. Et c'est ça qui est intéressant aussi.
Et depuis que cette maison est en place, ça fonctionne ? Il y a toujours du monde de passage ?
Il y a toujours quelqu'un dans la maison. Il y a forcément plus de monde en saison estivale, on va dire entre avril à fin octobre. Parce que là, il y a beaucoup de saisonniers ou de personnes en stage, service civique. En hiver, il y a aussi du monde, mais elle est un peu moins pleine. Donc, il y a toujours une ou deux personnes. Mais sinon, l'été, oui, il y a les 4 chambres qui sont prises, généralement. Et après, on complète aussi avec des personnes qui logent chez l'habitant. Quand c'est des personnes qui sont déjà venues plusieurs fois et qu'on connaît. Donc, par exemple, nous, on a une salariée qui s'appelle Paille, qui loge chez une personne du village, Jeannette. Et voilà, on met en place aussi des choses comme ça quand c'est possible et quand les personnes se connaissent et que ça matche bien.
Et Audrey, j'aimerais m'adresser à toi maintenant. Donc, le parc a aussi un rôle dans l'accompagnement et l'aide à l'installation des nouveaux arrivants sur le territoire. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler ?
Oui, je veux bien dire quelques mots là-dessus. Donc, c'est vrai que notre territoire, déjà, il est attractif de par lui-même, avec les paysages. Enfin, il y a des gens qui viennent et qui s'y sentent bien de suite quand on voit, en fait... j'arrive là, je veux m'installer, je veux rester. Donc il y a déjà vraiment une attractivité forte là-dessus. Et ensuite, on accompagne les collectivités, en fait, à accueillir des nouvelles populations. Donc on a une collègue qui est sur cette mission-là, qui travaille en partenariat avec... Enfin, il y a tout un tas de structures qui travaillent sur cette action, parce qu'en fait, concrètement, les populations, elles vieillissent, donc il faut pouvoir maintenir des gens sur les territoires, il faut maintenir des services pour que les gens y continuent à vivre bien. Donc, on fait de l'accompagnement, alors de l'accueil, des renseignements, de l'accompagnement de porteurs de projets, mais aussi on fait de l'accompagnement financier. Par exemple, on gère des programmes européens qui permettent de financer le maintien de services, notamment sur le territoire. Et on porte aussi des actions comme ce soir la cocotte, là, où c'est plutôt, en fait, d'essayer de faire le lien et de proposer des animations en lien toujours avec les acteurs du territoire.
Tout à l'heure, donc, je crois que c'était Liane qui a parlé du fait que, justement, aujourd'hui, on est dans une époque où on mange vite, il y a moins de liens sociaux attribués à ce moment de manger ensemble. Et c'est un peu ce qui a motivé, je pense, le projet de la cocotte qui chuchote. Et tu me disais, en préparant ce plateau, que vous avez aussi des actions d'aller vers les publics en zone rurale, pas forcément qu'en lien avec l'alimentation, mais aussi en lien avec l'alimentation. Donc c'est quelque chose d'important aussi pour l'accueil des nouveaux arrivants.
Bah oui, parce que ça participe en fait à rendre accessible à tous des animations. Donc on organise pas mal d'ateliers en lien avec l'alimentation, mais pas que au sein même des territoires, mais aussi sur de la prévention. Par exemple, il existe depuis plusieurs années le Carré Tout de la Santé qui tourne pour aller au plus près des habitants par les préventions et santé. On organise aussi des repair cafés pour apprendre à réparer. Et en fait, en gros, y a toujours un objectif de lien et de... Enfin, c'est ce qui fonctionne, quoi. Les gens, ils sont contents de se retrouver, on le voit là aujourd'hui, quoi. Voilà.
Et le château a accueilli aussi des repair cafés, il me semble.
Oui, on a accueilli un repair café autour de la couture. Il y a un an, un peu plus d'un an. Sur toute une après-midi, il y avait plusieurs ateliers... Donc les personnes sont venues avec des projets de réparation et c'est une association, l'Abeille Verte de l'ODEV, qui a encadré avec... elles ont apporté des machines à coudre et leur équipe. Et donc tout l'après-midi, les gens sont passés sur plusieurs créneaux pour réparer leurs vêtements ou des projets couture divers et variés. Il y avait quelqu'un qui voulait faire un hamac, par exemple, voilà.
Et donc, tu en as parlé un peu. Il y a un relais petite enfance au château. Quelles sont les autres ressources ou formes d'accompagnement que le château met à disposition pour les nouveaux arrivants, pour les gens qui ont un projet d'installation? Audrey parlait aussi de l'importance de maintenir les services partout, en fait, en milieu rural.
La question, c'est quels services on a
Le relais petite enfance.
On a le relais petite enfance intercommunal. Donc là, c'est une réunion des assistantes maternelles du territoire. Donc c'est le mardi matin. C'est ouvert aussi aux parents. Donc là, c'est des moments de rencontre autour de la petite enfance. On a aussi, nous, on accueille des expos pour les 0-5 ans, parce que c'est vraiment un public qui est un peu oublié sur notre territoire. Donc ça fonctionne plutôt bien. Après, on a un espace de coworking. Donc là, on accueille des personnes un peu tout au long de l'année. On a des étudiants qui viennent pour utiliser la salle parce qu'ils ont besoin de la visio, parce qu'ils ont besoin d'une bonne connexion. Et après, on a quelques télétravailleurs. Et après, on a des entrepreneurs du coin qui l'utilisent. Ensuite, on a un gros volet associatif. Donc, on est sur un territoire rural où il y a de nombreuses associations qui sont là pour essayer de pallier aux besoins que l'on retrouve et sur les manques qu'il y a, donc sur la culture, sur le social, sur le lien. Et donc ces associations, pour vivre, elles ont quand même besoin
d'espace,
mais aussi de formation, d'accompagnement sur des difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Donc on a aussi ce volet d'accompagnement. Donc on a des formations pour les associations tout au long de l'année, sur des formations diverses et variées, comme mobilisation des bénévoles, sur le mécénat, sur différentes questions. Donc ça, c'est le volet association. On a des cafés parentalité. Donc là, c'est les parents qui se regroupent pour discuter dans le bar, passer un moment, se retrouver. On a les moments autour du tricot, le vendredi, en fin de journée, dans l'après-midi, à partir de 4 heures. Vous verrez des personnes un peu de tout horizon qui se regroupent pour tricoter. Et après, qu'est-ce qu'on a comme autre service dans la semaine? Après, il y a le volet bar-épicerie qui est ouvert tous les jours.
Merci pour cette première partie d'échange. On va continuer à parler de cette notion de lien social et d'accueil, notamment via le projet qui nous réunit ce soir, La Cocotte qui chuchote. Mais d'abord, on va écouter une chanson issue de la playlist spéciale que Radio Larzac a concoctée pour ses soirées au repas et que vous allez entendre aussi tout à l'heure pendant le repas.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée à cappella sur le piano. Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mémère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids.
Camille, je ne mâche pas mes mots sur Radio Larzac. Nous sommes toujours en direct depuis le château de La Tour-sur-Sorgue pour la dernière soirée du projet La Cocotte qui chuchote, une déclinaison de soirée repas conçue par le chef Martin Souchet et préparée par les bénévoles de chaque tiers-lieu. Nous avons parlé de la notion d'accueil, de lien social à un milieu rural via les tiers-lieux. C'est un aspect qui est au centre de ce projet La Cocotte qui chuchote. Et pour reprendre, j'aimerais m'adresser à toi, Audrey, qui travaille pour le parc des Grands Causses. Tu me disais que vous avez pensé ce projet de La Cocotte qui chuchote non seulement comme ces moments qu'on vit comme aujourd'hui de convivialité et de repas, mais aussi et surtout comme occasion de faire du lien entre les tiers-lieux. Est-ce que tu peux nous présenter un peu comment ça s'est passé, cette partie de coordination, de lien entre les tiers-lieux ? Tu me parlais d'ateliers aussi auxquels tout le monde a participé.
Oui, tout à fait. En fait, la soirée repas de ce soir, c'est le final de toute l'action qui est menée. Donc, effectivement, l'idée, c'est de passer un moment convivial autour d'un repas avec au sein d'un village, mais c'est surtout aussi tout le temps de préparation en amont qui est important. Alors, au sein même des villages, mais aussi entre les tiers-lieux. Parce que l'idée de départ, en fait, sur la cocotte, c'était de mobiliser plusieurs tiers-lieux sur le territoire qui se rencontrent, qui échangent et puis qui progressent ensemble parce que finalement, ben, les problématiques de La Tour, elles se retrouvent à Saint-Sever et ailleurs, quoi. Par exemple, hein, enfin, j'ai cité ces deux exemples-là parce qu'ils me viennent en tête, mais voilà. Donc, effectivement, c'est la deuxième édition de la cocotte. Au printemps, on s'est réunis plusieurs fois, en fait, parce que le bilan de la première édition avait fait remonter que oui, c'était super dans les villages, l'ambiance qu'il y avait eu, mais que finalement, il n'y avait peut-être pas eu suffisamment suffisamment de liens entre les tiers-lieux, c'est-à-dire que chaque tiers-lieu n'était pas allé à la soirée des voisins, parce que ben, comme il y a un nombre de repas maximum à pas dépasser, on ne pouvait pas venir non plus avec tous les copains des voisins. Donc là, l'idée, on s'est dit, ben, on va faire des ateliers entre bénévoles en amont, pour apprendre à se connaître et puis pour passer du temps. Donc il y a eu 3 ateliers qui se sont déroulés. Il y en a eu un ici au château de la Tour où on a créé une spirale aromatique. Donc c'était avec Naturellement Simple de Saint-Laurent du Lévézou. Ensuite on a fait un atelier à Saint-Sever où on a un atelier cueillette animé par Christelle Glabé de la ferme Les Simples de l'Ange, où on a passé l'après-midi à cueillir. Voilà. Et le troisième atelier, on a été visiter un paysan boulanger, en fait, à Sévrac d'Aveyron, de la ferme du Mulet, qui nous a appris à faire la foisse au levain. Alors au départ, on s'était dit, comme ça, on pourra faire la foisse nous-mêmes. Mais bon, là, comme c'était avec du vrai levain, c'était quand même plus technique que de la foisse. Mais vous l'avez fait. Voilà. Donc voilà, ici ça a été fait, mais dans les autres tiers-lieux, peut-être ça a été acheté. Hein. Voilà, donc l'objectif, c'était vraiment de créer des temps dédiés, pareil, toujours sous couvert. Alors ça garde un lien, hein. Du coup on est resté sur les plantes sauvages, comestibles, la foisse et la spirale aromatique, pour que ça garde la thématique avec les soirées de la cocotte, mais qui est aussi du temps dédié pour faire réseau entre les tiers-lieux. Quoi.
Tu veux ajouter quelque chose, Guillemette ?
Oui, du coup, c'est important de faire réseau sur les tiers-lieux de manière générale et sur le territoire des Grands Causses aussi, parce que les tiers-lieux, il ne faut pas oublier que c'est des lieux qui sont quand même un peu précaires. C'est souvent des lieux associatifs, tenus par des bénévoles qui font ce qu'ils peuvent. Il y a des salariés aussi. Ça a des sources de financement qui sont quand même assez instables. Et de se mettre à plusieurs, ça permet d'échanger sur les problématiques, d'essayer de s'apporter des solutions, parce que quand même la durée de vie des tiers-lieux aujourd'hui, elle n'est pas très, très longue. Hein. Il y a beaucoup de tiers-lieux qui ne durent pas dans le temps. Et c'est essayer à notre échelle d'y faire quelque chose, surtout que, bon, après moi c'est mon point de vue, mais je pense que sur les territoires ruraux, même peut-être en ville, hein, mais sur les territoires ruraux, les tiers-lieux sont essentiels pour ce dont on vient de parler, pour le dynamisme, pour cette notion d'accueil, pour le partage et pour le lien social sur le territoire.
Et donc aujourd'hui, c'est la conclusion de la 2e édition de ce projet. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme bilan du côté du parc et du côté du tiers-lieu de la Tour-sur-Sorgue ?
Du coup, ça a été une seconde belle édition. Il y a eu plein de moments d'échange, de partage. Le repas, nous, il arrive à. Enfin, les préparations sont en cours, là. Tout arrive à son terme. Normalement, ils sont en cuisine en train de finir de préparer, si tout se passe bien. peut-être de la cuisine, oui, ils écoutent Radio Larzac, là, en direct. Tout s'est bien passé. Après, c'est un projet, je pense qu'il faut perpétuer et voir comment on peut le poursuivre. Et, parce que c'est important, ce qu'on disait, ce lien entre les tiers-lieux pour continuer nos discussions et l'entraide. En tout cas, parce que je sais que certains de nos tiers-lieux sont en difficulté. Donc, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider.
Et Audrey, tu veux compléter ?
Donc moi, j'ai participé de très loin à la première édition. Donc là, j'ai le recul que sur celle-ci. J'ai envie de dire, attendons que le repas soit passé pour tirer toute conclusion. Non, après, pour ma part, ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'est que je travaille sur le volet alimentation, mais du coup, les tiers-lieux, c'est aussi des relais, parce qu'il y en a beaucoup sur le territoire qui font office d'épicerie, donc en contact direct en termes d'alimentation avec les habitants. Donc ça m'a permis, moi, de mon côté, de vraiment plus connaître les gens. Et puis la participation au repas aussi, quoi. C'est-à-dire que le parc, on est des fois peut-être un peu éloigné de la population, et de manger à une table avec des citoyens et de raconter ce qu'on fait et pourquoi on est là, ça peut permettre aussi de dialoguer là-dessus.
Moi, je voulais dire que ça a comme vertu pour moi qui arrive, hein, de travailler ensemble. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de travailler. Alors, des belles choses, hein,
De faire ensemble.
De faire ensemble. Mais non, parce que c'est un travail bénévole, certes, mais c'est un vrai travail subtil, long. Il faut être patient, il faut être constant. Voilà, hein, on a passé quoi, 3-4 heures là, pour dresser simplement l'entrée. Et on était, je sais pas, moi, 25. C'est extraordinaire, ça.
Et justement, je voulais savoir comment ça s'est passé, la préparation de cette soirée. Chacune d'entre vous, qu'est-ce que vous avez fait et quels ont été vos rôles, vos missions ?
Eh bien, pour ma part, vu que c'est moi qui tiens le fournil, on avait imaginé aussi un repas où on pouvait utiliser le four communal, quoi. Et dans la mesure où on a chauffé le four toute la semaine et notamment le vendredi, en fait, le samedi, il a encore beaucoup d'inertie, beaucoup de chaleur. Et donc, on a enfourné à 12h30 à 130 degrés. 12 cocottes en fonte avec donc de l'épaule d'agneau, des petits légumes, du miel, et on les a sortis à 4h30 et tout était hyper confit, ça sentait très très bon, on va se régaler je pense.
Et là, ça chauffe à côté de la cheminée, c'est ça ?
Voilà, là, parce qu'en fait, comme le fournil n'est pas loin du château, mais il faut quand même passer par l'extérieur, du coup, c'est important de pouvoir garder au chaud aussi à l'intérieur du château. Et on a fait aussi la fouasse avec Geneviève, on s'est occupé de la fouasse.
Lundi, elles se sont mises à faire les fouasses pour qu'elles puissent sécher, pour pouvoir faire les tiramisu hier. Donc des tiramisu à la fouasse.
Voilà.
Revisité à la Véronèse.
Et tu as aussi fait du pain pour cette soirée ?
Oui, mais bon, ça c'est pour toutes les soirées au château, je fais le pain, pas que pour la cocotte qui chuchote. Mais c'est super. Et d'ailleurs, c'est chouette de dire que ce pain fait partie d'un repas gastronomique.
Et oui, justement, il y a aussi le rôle de Martin Souchet, donc le chef qui a participé à la conception de ce menu en fonction un peu du tiers-lieu.
Du coup, Martin est venu deux journées, une avant l'été et une là, il n'y a pas très longtemps. Donc avant l'été, pour nous présenter une idée de menu qu'on a retravaillé avec lui, qui nous a fait déguster lors d'un repas. Et il n'y a pas très longtemps, il est revenu donc une journée entière pour qu'on lui pose toutes les questions que l'on avait. Parce que dans l'été, du coup, les bénévoles ont testé. Donc, ont utilisé, par exemple, le four de Lienne plusieurs fois pour faire les tests cuisson et pour faire l'entrée, aussi pour faire le dessert. Et du coup, après cela, ils avaient pas mal de questions sur certains éléments. Du coup, il est revenu une journée. Et après, il y a eu encore des échanges par mail et par téléphone pour arriver au menu que l'on présente aujourd'hui.
Et j'ai oublié de finir le tour. Donc, Marianne, toi, qu'est-ce que tu as fait pour cette soirée ?
Eh bien, je suis venue plusieurs reprises. J'ai participé d'ailleurs à la seconde réunion avec Martin. En fait, j'étais là, j'ai beaucoup écouté et pris des notes, c'est tout. Et puis après, moi, très concrètement, j'ai participé à l'élaboration du crumble qui est rentré dans la composition de l'entrée. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai coupé beaucoup de légumes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai nettoyé les légumes, j'ai lavé les salades, voilà. Et puis là, je vais aller servir.
Et toi, Audrey, tu as été recrutée aussi
Non, moi, je n'ai pas fait grand-chose, en fait. Voilà. Moi, je viens plutôt m'initier pour prendre un petit peu l'ambiance et profiter du dernier moment. Mais en toute honnêteté, après, sur le travail en cuisine, alors là, c'est pas...
Tu as participé à ramasser les fleurs sauvages qu'on est allé tout à l'heure et les dressages des entrées qui nous a pris un
après,
long moment.
Après, oui, ouais, c'est toujours impressionnant l'enthousiasme, mais ça fait comme une petite ruche là où tout le monde se met au travail. Enfin, c'est vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui peut-être ne ressort pas forcément après dans les repas, mais tous les engagements des bénévoles, les inquiétudes, le travail, le collectif, c'est vraiment... je pense que c'est quand même un gros, gros travail. Et C'est évident que les plats ils vont être délicieux et tout le monde va se régaler, mais moi encore plus pour savoir toute l'énergie que ça a demandé derrière, quoi.
Et Guillemette, autour de cette soirée, et il y a aussi plusieurs rencontres que vous avez organisées au château. Il y a eu un atelier avec le CPIE mercredi et avec les petits débrouillards cet après-midi. Est-ce que tu peux nous les présenter ?
Alors, on a eu un atelier mercredi après-midi avec le CPIE du Rouergue. Donc là, c'est Aurélie qui est venue une après-midi pour nous faire découvrir les plantes sauvages. Donc, on est sortis aux alentours du château. Elle nous a fait découvrir des plantes sauvages comestibles. Et après, avec elle, on a ramassé du plantain pour réaliser un pâté végétal qui est servi ce soir au niveau de l'entrée. Donc là, ça a été pas mal de belles découvertes et comment se nourrir avec des choses toutes simples dont on ne pense pas. Parce que le plantain, c'est vraiment une plante, il y en a partout. Et après, les petits débrouillards, ils sont venus cet après-midi, là, samedi 6 décembre. Ils sont venus pour nous parler de l'alimentation locale, une alimentation durable. Donc là, c'était plutôt des animations famille. Ils sont restés une grande partie l'après-midi et après aussi ils avaient une exposition sur l'alimentation. Donc là c'était un peu l'ouverture on va dire du repas et continuer à la sensibilisation sur une alimentation de qualité et locale et qui rémunère justement les producteurs.
Et justement l'alimentation locale était aussi un des aspects principaux de ce projet La Cocotte qui chuchote, et c'était quelque chose qui était déjà connu des tiers-lieux. Audrey, tu me disais que c'était quelque chose d'évident quand vous avez initié ce projet.
L'idée c'était de faire des repas avec des produits locaux en achat direct de producteurs avec moi je travaille sur le projet alimentaire de territoire, donc l'idée que je vienne sur cette seconde édition c'était un peu de travailler sur ce volet-là, mais finalement il y en a pas eu besoin parce que concrètement les tiers-lieux travaillaient déjà dans ces dynamiques-là. Par contre, par rapport à ce qu'a dit Guillemette tout à l'heure sur l'atelier du CPIE, en fait il a été organisé dans le cadre du PAT, donc on peut toujours faire des liens, c'est-à-dire qu'à un moment quand il y a une action qui est portée à un endroit, on peut amener un complément, quelque chose de pour faire le petit plus produit et puis pour créer un peu plus d'émulsion autour d'actions déjà menées, quoi.
Oui, et d'ailleurs, dans le cadre du PAT, il y a des ateliers de sensibilisation à l'alimentation durable sur cette commune-là aussi, sur ces communes du Larzac et Vallée.
Oui, par exemple, l'atelier du CPIE qui a eu lieu, c'était dans ce cadre-là. C'est vrai qu'on essaie de décliner. Donc là, c'était sur le territoire Larzac-Vallée où il y avait une dynamique en lien avec le gaspillage alimentaire et l'alimentation durable. Donc on essaie après de permettre à des territoires d'avoir accès à des ateliers. Alors là, c'était de la co-construction, un peu clé en main à la carte, quoi, en fonction des besoins des gens. Donc il y a eu un atelier ici, il y a eu un atelier à la cuisine de la Couvertoirade, il y a eu un atelier à la médiathèque de la communauté de communes à Cornus, il y a eu un atelier dans les crèches, enfin voilà, l'idée c'était de faire un peu aussi, c'est toujours pareil, l'idée c'est d'essayer de faire le lien entre les acteurs du territoire.
Si on reprend un peu la notion qu'on a explorée au début de l'émission, donc celle de l'accueil et du lien social, effectivement, on a remarqué que vous êtes que des femmes autour de cette table. Il y avait Timothée au début, le fils de Lienne. Est-ce que vous trouvez au château ou peut-être dans les tiers-lieux au général que les femmes sont plus impliquées ou qu'ils sont peut-être plus en demande d'activités collectives ? D'après votre retour, votre expérience
Alors, au niveau de l'association, nous, il y a un peu plus de femmes, mais il y a quand même pas mal d'hommes qui sont impliqués. Pas tout à fait moitié-moitié, mais il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont impliqués. Mais là, tu m'avais demandé de choisir des invités. Et du coup, je trouve que les hommes ont assez souvent la parole. Et du coup, je me suis permis d'inviter essentiellement des femmes pour ce plateau radio.
Eh bien, merci pour cette deuxième partie. Le menu, je crois qu'on l'a présenté un peu au fur et à mesure. Est-ce que vous voulez le redire pour faire saliver nos auditeurs et auditrices ?
Alors, dans le menu, Vous pourrez manger une panna cotta au pérail, pesto de roquette, crumble de thom et carpaccio de radis. Ça, c'est l'entrée qui a demandé un dressage très très long. Ensuite, en plat principal, une épaule d'agneau confite en cocotte, purée de butternut et navets glacés avec des condiments, des gelées d'agrumes. Et enfin, pour le dessert, un tiramisu de foie au café de Sylvanès. Mais tout ça, il y aura du bon vin, quoi.
Il y a proposé du vin à Terrasse du Larzac, oui.
Voilà. Et puis, il y aura un cocktail qui a été confectionné aujourd'hui même par une jeune femme qui habite dans la maison d'Augusta.
Oui, une jeune service civique qui est là en ce moment avec sa compagne. Et du coup, elles ont préparé un cocktail avec des produits du coin, soit une ginger beer, l'élixir de Chartreuse, parce qu'on a une abbaye de Chartreuse juste à 5 minutes d'ici. Et de l'eau pétillante, voilà.
Et le pain de ce soir, c'est quoi comme pain, Liane ?
C'est le pain bis et le pain aux graines, donc un pain à la farine semi-complète.
Et pour conclure, est-ce que vous pouvez nous présenter quels sont les prochains projets ou événements à venir ici à La Tour, au château ?
Alors, en prochain projet sur cette fin décembre, on a le marché de Noël, vendredi prochain, le 12 décembre. On a donc des artisans, des producteurs qui se regroupent dans le château sur une soirée, donc c'est en soirée. Et après, c'est un peu plus calme sur ce début d'année. Après, toutes les activités, expos, stages... cours reprennent en mois de mars.
Et du côté du parc, Audrey, est-ce que tu vas ajouter des informations sur le projet, mais sur autre chose aussi ?
Je suis très contente d'avoir participé à cette saison. Et puis sur les projets en lien avec l'alimentation pour le parc, on va poursuivre, je pense, les ateliers de sensibilisation. Et puis en 2026, on veut aussi... continuer à travailler sur l'alimentation de qualité pour tous, en fait, plutôt en lien avec la vulnérabilité à la précarité alimentaire, que ce soit financière, mais aussi géographique, sur comment on a accès à une épicerie quand on est un peu loin, les choses comme ça, voilà. Et on va aussi travailler sur... on veut proposer une expérimentation avec des paniers de légumes bio pour les femmes enceintes et tout un volet de sensibilisation sur cet âge-là qui semble propice à adopter de très bonnes pratiques.
Et on peut citer sur ce projet La Cocotte qui chuchote qu'il y a aussi une photographe.
Oui. Je n'arrête pas d'y penser, je me dis qu'il faut quand même que je parle d'elle. Exactement, il y a Marie Dumenter qui est là et qui fait des photos et aussi des captations de son. Pour l'idée à chaque fois sur les cocottes, c'est de garder une trace par la suite. Donc il y aura une exposition certainement itinérante pour toujours garder le lien entre les tiers-lieux.
On peut aussi dire que du coup, c'est la deuxième édition. On ne sait pas s'il y aura une troisième édition, mais que l'accompagnement des tiers-lieux de la part du parc continue.
On peut dire ça.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je crois que c'est bientôt l'heure d'aller manger. Ça commence à quelle heure ?
Le repas commence à 19h30, mais les gens arrivent souvent bien une demi-heure avant pour discuter.
Mais merci pour l'accueil. Et donc, je rappelle que c'était donc la soirée de conclusion de ce projet La Cocotte qui chuchote, la deuxième édition. Un projet porté par le Parc naturel des Grands Causses avec le chef Martin Souchet. Et merci à vous d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir à côté de la préparation en cuisine. Donc je le rappelle, Guillemette Sobituet, coordinatrice du tiers-lieu du château de la Tour sur Sorgue. Liane Jutet, tu es boulangère à la Tour sur Sorgue et bénévole aussi au tiers-lieu. Merci à Timothée qui était là en première partie, qui est bénévole et participant aux animations du château. Merci beaucoup à Marianne Cantacuzène qui est ébéniste et qui est nouvelle habitante de la Tour sur Sorgue. Et merci à Audrey Puech-Broussou, coordinatrice du programme alimentaire de territoire au Parc naturel régional des Grands Causses. Merci donc au Parc des Grands Causses pour nous avoir fait confiance pour ces animations radio.
Je voulais dire merci aussi à Radio Larzac d'avoir suivi en fait sur tous les repas et d'être venu refaire les plateaux radio et l'animation.
Merci.
C'est toujours, c'est toujours un plaisir pour nous de sortir de notre studio. Merci à Radio Lodève aussi qui a assuré la soirée à Saint-Maurice Navacelles. Merci aussi à Radio Centrafrique qui était présente pour le soutien technique à Saint-Sever-du-Moustier la semaine dernière. Merci à toi Nico, à la technique, et merci aussi à nos collègues Alex et William qui ont animé aussi une partie de ces plateaux radio. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes, ainsi que les reportages aussi sur la première édition du projet La Cocotte en 2024 sur notre site radiolarzac.org. Bonne écoute sur Radio Larzac et puis bon appétit aux convives du château de la Tour-sur-Sorgue.
C'était La Cocotte qui chuchote, une émission spéciale depuis les tiers-lieux du parc naturel régional des Grands Causses.
À retrouver sur radiolarzac.org et radiolodève.com.